croisé les miens. J'ai su que toute ma vie basculait. J'ai su que j'allais monter dans ce train sans trop savoir où il m'emmènerait. Le jour où ton regard m'a bouleversé, pourquoi étais-je là sur ton chemin? Pourquoi ce lieu, ces gens, cette soirée? Mais je peux te dire que je m'en souviens. Et si la vie n'est pas toujours rose, le hasard fait parfois très bien les choses. Et si la vie nous laisse des échymoses, le hasard fait parfois très bien les choses. Le jour où tes yeux ont croisé les miens, j'ai bien fait d'aller où je suis allé, puisque c'est rien de moins que le destin qui m'avait secrètement convoqué. Sans savoir que tu existais, cette autre vie je l'aurais traversée. J'aurais été un autre ou pas, qui sait. Et si la vie n'est pas toujours rose, le hasard fait très bien les choses. Et si la vie nous laisse des échymoses, le hasard fait parfois très bien les choses.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel au micro. Alors d'emblée, osons une comparaison. Il y aurait comme un petit air de Serge Rezvani chez Antoine Salaire, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, rappelons-le aux oublieux, Serge Rezvani fut, entre autres et sous pseudonyme, l'auteur du tourbillon et de ses bagues à chaque doigt. Mais ceci exposé, à quoi tient-elle cette comparaison? Sans doute pour chacun des deux auteurs compositeurs interprètes à une même manière douce d'aborder le monde et de chanter du bout de la voix. Mais aussi, sans duplicité malsaine, d'aimer les jeux de l'amour et du hasard. Tiens, le disque d'Antoine Salaire s'intitule d'ailleurs « Le hasard » et nous venons d'écouter le titre éponyme en ouverture d'émission. Et enfin, de privilégier le minimalisme des orchestrations pour mieux, d'évidence, faire ressortir le chant du bout de la voix. Et maintenant, ceci dit, faisons plus ample connaissance avec Antoine Salaire. Commençons alors par signaler qu'il est un proche artistique, et on le suppose amical d'un ancien des chiens, François Morel, qui l'accompagne tant sur disque que sur scène en qualité d'arrangeur et d'auteur-compositeur. Pour parfaire ce portrait, citons également des collaborations avec Juliette Gréco, Lucrèce Sosla ou encore Juliette, et mentionnons une délicieuse colonie des optimistes, livre CD jeune public, qui entraînait les auditeurs, lecteurs, petits et grands, à la découverte de la diva Pamela Boum Boum. La glace des présentations étant rompue, évoquons désormais Le Hasard, ce disque minimaliste et intimiste qui s'expose en album du mois de notre émission. Minimaliste d'abord, parce qu'il est un délicat album piano-voix, même si ce ne sont pas moins de 3 pianos différents qui accompagnent, suivant les titres, le chant. Alors un grand piano Steinway à queue, un piano droit, et puis un petit piano Klein, du nom de celui qui créa la première manufacture française de l'instrument, et que facétieux Antoine Salaire et son complice à la réalisation David Chalmin s'amusent à faire sonner comme un ukulélé ou un cymbalum. La présence de fait de David Chalmin, plus identifié pour ses escapades électroniques, ouvre en complément l'espace sonore à quelques boucles de programmation de piano électrique Wurlitzer. Et puis intimiste ensuite, parce que qu'il s'agisse d'une promenade dominicale par un enfant au Jardin des Tuileries, la chanson 8 milliards et 1 que nous écouterons en fin d'émission, d'une phrase d'un livre qui bouleverse et devient résumé d'existence, le titre « Cette phrase », ou encore d'une énumération débridée du répertoire d'Alain Souchong, en un seul mot et avec un G conclusif, tout se susurre de la bouche du chanteur à l'oreille de l'auditeur, et ainsi, dans un monde si souvent à bout de souffle, tout devient baume, tout devient beau. Vous êtes à l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, je sais, je l'ai déjà dit en ouverture d'émission. Et maintenant, je me tourne vers le complice de cette émission, Thomas Fouet, pour le saluer et lui passer la parole.
Merci Francis. Nous sommes donc le samedi 24 février 2024. Arsenal est 3e de Première Ligue, Sochaux 6e du championnat national et Amiens tend dangereusement vers le ventre mou de la Ligue 2. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les sujets sur lesquels je suis compétent. Passons maintenant aux arts mécaniques, si vous le voulez bien. Et avant de vous annoncer plus avant le programme de l'émission, c'était hier soir les Césars, la réunion de copro la plus gênante de l'Hexagone. Peut-être les as-tu regardés, Francis, ou peut-être as-tu pris connaissance, le jour venu, du palmarès. Souhaites-tu nous en dire un mot ?
Eh bien, oui, pourquoi pas. Écoute, on peut en dire deux mots. Alors, je ne les ai pas regardés, je l'avoue. Je ne les ai pas regardés, alors qu'avant, c'était un rituel. Je les regardais tout le temps, quand j'étais gamin, c'était le temps avec mes parents devant la télé. Ensuite, jeune homme, c'était le temps de préparer un plateau repas et de passer la soirée. Et puis après, il y a eu un moment professionnel de la profession où j'assistais sur place, quoi. Et puis, je sais pas, enfin si je sais, mais je ne le dirai pas. Nos chemins sont parfois divergents. Et donc, c'est vrai que depuis l'après-confinement, soit j'ai survolé, et hier soir c'était même plus un survol, comme je savais que j'allais venir au studio et qu'il fallait que je sois prêt de bonne heure, eh bien je me suis couché tôt. mais j'ai quand même pris connaissance ce matin des résultats, et je voudrais juste signaler deux petites choses. En fait, comme j'ai pas suivi la cérémonie, je ne sais pas ce qu'il en est, mais un grand plaisir ressenti, c'est ce César du meilleur acteur pour Harry Forhalter dans Le Procès Goldman, qui me semblait pour moi une évidence, mais on ne sait jamais avec les votants des Césars.
Assorti d'une très belle prise de parole, très politique, très minimaliste et assez nécessaire, me semblait-il.
Et puis alors une surprise, parce que j'ai toujours pas vu le film, alors que je dois reconnaître que j'ai acheté le vinyle de la BO du film chez mon disquaire préféré,
voilà,
Souffle Continu.
Voilà qui te ressemble bien.
Voilà, donc je l'ai eu chez Souffle Continu la dernière fois que nous avons fait une émission ensemble, en janvier. Et donc c'est cette surprise... qui me fait plaisir sur le principe de voir que Simple comme Sylvain de Monia Choukri a eu le prix du meilleur film étranger et qu'elle était face à des
sommités. Au nez et à la barbe d'Oppenheimer notamment.
Voilà, et donc Christopher Nolan, qui recevait son César d'honneur, ne l'a pas eu, j'ai été soulagé. Après, il y avait d'autres très beaux films, effectivement, il y avait le Bellocchio, le Wenders, le Coris Maki, et d'un seul coup, c'était la plus belle surprise de la soirée en lisant ce matin voilà, le compte-rendu et le palmarès.
Eh bien, merci Francis, et j'accueille donc et remercie de leur présence nos chroniqueuses du jour. J'ai nommé Margherita Gela et Julie Loncin de la rédaction des Fiches du Cinéma. Bonjour Margherita.
Bonjour Thomas.
Bonjour Julie.
Bonjour Thomas.
Nous devions également accueillir ce jour, a priori, l'amie Marie-Pauline Mollaret de la rédaction d'Écran Noir et du comité de sélection du comité court-métrage de la semaine de la critique, dont j'ai moi-même le plaisir, que dis-je, l'honneur de faire partie. Et qu'autrefois dirigea Francis Gavel, vous le voyez, c'est décidément l'entre-soi de la critique, les professionnels de la profession, nous en parlions à l'instant, mais Marie-Pauline est souffrante. Je lui souhaite par conséquent un excellent rétablissement. Et sans plus tarder, nous en venons au premier film de cette table ronde, puisque c'est en cela que va consister cette émission. Pardon, voilà que déjà je mange mes mots. En un tour d'horizon des sorties en salle avec 20 000 espèces d'abeilles. C'est le premier long métrage de la cinéaste espagnole Estibaliz Urresola Solagolen, présenté l'an passé au Festival de Berlin, et pour lequel la jeune Sofia Otero, âgée de 9 ans seulement, avait remporté l'Ours d'Argent de la meilleure interprète. Le film a également plus récemment raflé quelques Goya, pour rappel l'équivalent espagnol des Césars, notamment ceux du meilleur scénario et de la meilleure nouvelle cinéaste. Estibaliz Urresola Solagolen avait été révélée, devinez où, à la semaine de la critique, en 2022 en l'occurrence, où avait été présenté son très beau court-métrage Cuerdas. Y serions-nous pour quelque chose, mes camarades et moi-même du comité de sélection? C'est bien possible. Le sujet, en quelques mots. Un été, Aitor, 8 ans, se rend avec sa mère Anne, son frère et sa sœur dans leur maison de famille du Pays Basque. Anne, en crise sentimentale et professionnelle, profite des vacances pour travailler dans l'atelier de son père, sculpteur décédé des années auparavant. Aitor, qui ne se reconnaît pas dans son corps de garçon, se fait appeler Coco, mais rêve déjà à un autre prénom qui lui conviendrait mieux. Auprès de sa tante apicultrice, elle se rapproche du monde des abeilles. Solagolen dépeint avec sensibilité la quête d'une petite fille née dans le corps d'un garçon, livrant une réflexion profonde sur la notion d'identité. C'est ce que tu écris, Margarita, dans les fiches du cinéma. Je précise que c'est un film qu'avait beaucoup aimé l'an passé à Berlin notre ami Florent Boutet, habitué de ses ondes, et qui se serait fait une joie de l'évoquer sur ce plateau. Hélas, Florent, cette année encore, est au Festival de Berlin, où quotidiennement il voit autant de films que je descends de Grimbergen, car c'est un cinéphile, un vrai, ce qui, faut-il vous le rappeler, n'est pas mon cas. Après tout, chacun ses loisirs. Ce qui ne m'a pas empêché, je le précise, et c'est tout ce que je dirais du film, de copieusement chialer ma race. À un moment précis du récit, que je ne vous dévoile pas, l'émotion serait-elle partagée dans ce studio? Je vais vous poser la question au casting. Sofia Otero donc, ainsi que Patricia Lopez, Arnaïs et Anne Gabalein, et c'est d'ores et déjà en salle, bande de vénards. Mesdames, messieurs, qui veut ouvrir le bal? Allez, Margarita.
Allez. Bah oui, c'est un film que je trouve magnifique, et au début, en fait, le personnage de Coco m'est rappelé beaucoup celui de Tomboy de Céline Sciamma. Et, mais ensuite, en fait, le film semble prendre une autre voie encore, et donc en se focalisant aussi sur le personnage de la mère, Anne. Et donc, je trouve très intéressant le fait d'avoir voulu choisir deux points de vue, et donc de parler de l'identité, mais au sens large. Et aussi, le caractère assez... en fait, il y a beaucoup la question aussi de la matière, de cette cire que la mère de la protagoniste utilise pour fabriquer des sculptures, et qui est la cire qui est produite par les abeilles, qui sont un peu le fil rouge du film, donc comme la tante de Coco, la protagoniste, est apicultrice. Et aussi, je trouve qu'il y a des très belles scènes dans la nature, où en fait, Coco peut être elle-même en dehors de la société. Et je trouve que cette façon de montrer sa relation avec sa tante et le fait qu'elle peut se libérer en contact avec la nature, je trouve ça assez poétique et très bien réalisé dans le film. Donc, c'est les moments que j'ai le plus aimé, je pense. Et après, c'est vrai que parfois, il y a un peu un rappel, même si c'est pas le sujet, mais quand même, j'ai trouvé un peu de similitude avec Nos Soleils de Carla Simon, et dans sa façon de montrer aussi un milieu rural. Et je trouve que, oui, en fait, elle l'a fait de façon très intelligente, parce que elle montre que c'est pas tant la transition d'un enfant qui découvre d'être quelqu'un d'autre, mais au contraire, en fait, la protagoniste sait très bien qui elle est. C'est aux autres, en fait, d'apprendre à l'appeler avec son vrai prénom qu'elle a choisi pour elle. Donc voilà, c'était une très belle découverte, parce que je ne connaissais pas la réalisatrice, je n'avais pas vu son court-métrage, et donc c'était un peu un coup de cœur.
Oh, je dois avoir ça quelque part, sur un disque dur, je te l'enverrai.
Merci.
Julie.
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, je trouve que c'est un très très beau film. Et que oui, c'est une belle manière de montrer la question de l'identité de genre qui ne coïncide pas strictement avec le sexe et qui est plus une question de spectre et la manière de montrer la variété des réactions et des attitudes autour du personnage de Coco, de la petite fille, était assez fine et intelligente et sensible. Moi, ça m'a fait aussi penser beaucoup au documentaire Petite fille de Sébastien Lifshitz. Pour moi, c'est un peu le pendant fictionnel de ce documentaire. Ça a la même évidence, en fait, la même. La petite fille, elle est ce qu'elle est, et c'est pas un problème, en fait. C'est pas présenté comme un problème. C'est aux autres de s'adapter à cette réalité.
Effectivement, c'est à son environnement de s'adapter.
Ouais. Voilà. Et ça, je trouve que c'est magnifiquement montré. Et voilà, donc je vous recommande forcément ce film. Et il y a aussi le fait que donc ça se passe au Pays basque espagnol, et donc les personnages vont et viennent entre la langue basque et l'espagnol. Et ce que j'ai lu dans le dossier de presse, parce que je ne connais pas bien le basque, mais apparemment le basque n'est pas une langue genrée, donc c'est aussi pertinent dans le contexte du sujet du film que cette langue-là soit employée et corresponde mieux à Coco. Magnifiquement interprété par Sofia Otero, d'ailleurs, tout à fait mérité le prix pour la petite fille.
Mais que cette dimension politique ou potentiellement politique de la langue ne t'échappe pas, hein, me semble relever de l'évidence. Je rappelle que tu es par ailleurs toi-même traductrice.
En effet.
Donc, que cette question de la langue ne t'échappe pas, cela est logique. Francis.
Je vais me joindre à ce concert élogieux et à juste titre. Moi, je trouve que, premièrement, j'ai envie de dire que je trouve que c'est un film qui est pétri d'humanité. Et que ce que j'aime assez dans le film, au-delà du personnage de Coco, et peut-être à l'exception notable de la grand-mère, c'est que, en fait, aucun protagoniste n'est définitivement jugé par la cinéaste. Et j'ai juste envie de prendre un personnage qui m'a accompagné pendant tout le film et que je trouve très très beau, et en termes d'écriture et en termes d'interprétation, c'est le grand frère de Coco, qui au début semblait présenté comme un jeune pré-ado un peu bourru, un peu rentre-dedans, et qui petit à petit, voyant à quel point pour Coco le regard des autres est difficile parce qu'il lui renvoie sans arrêt finalement leur propre incompréhension face à son choix, lui, il devient au fur et à mesure celui auprès duquel on peut se réfugier, et il devient celui qui console. Et je trouve qu'il y a une très très belle scène effectivement comme ça. Et je trouve que ce personnage du coup est fabuleux. Et peut-être qu'en plus ce personnage peut s'épanouir, puisque le début du film commence de manière très citadine, puis après on arrive à la campagne. Il y a comme ça une très très belle respiration, moi je trouve, pastorale dans le film. Et on se dit que dans le film, les bergers deviennent des apiculteurs. Et puis finalement ils se préoccupent des âmes qui peuvent être en souffrance ou qui peuvent se questionner, et que peut-être ce personnage finalement acquiert ceci. Et alors, ce qui est intéressant, alors ça va peut-être faire bizarre à l'antenne de Radio Libertaire, parce qu'on ne l'a pas encore signalé, c'est que la religion est très présente dans le film. Et que, par exemple, par rapport au personnage de la grand-mère, effectivement, c'est le point d'achoppement pour elle, mais que la manière dont la religion est présentée, c'est à la fois comme effectivement un dogme, alors je fais exprès d'employer ce mot-là, castrateur, et en même temps une espèce de liberté de conscience, le regard autour de la religion, la réflexion autour de la religion passe sans arrêt de l'un à l'autre, et je trouve ça aussi assez étonnant, assez pertinent. Alors après, j'ai pas pu m'empêcher, mais là c'est peut-être un côté provocateur de ma part, de me dire que certaines ligues réactionnaires allaient traiter ce film de wokiste, hein, ça paraissait une évidence, qu'on pervertissait l'esprit des jeunes enfants en les mettant face à une fillette transgenre. Et moi, je crois au contraire que ce qu'il y a de magnifique dans ce film, et c'est moi-même peut-être le chemin que j'ai eu en le découvrant quand je suis allé à la projection, c'est qu'en abordant la chose d'une manière très sensible, en fait, on dépasse le débat important, certes, mais sociétal, pour d'un seul coup être dans la réalité, dans la démarche d'une personne. Et je trouve que le film rend ça magnifiquement. Voilà, je m'arrêterai là.
Très bien, je vous remercie. 20 000 espèces d'abeilles, d'Estibelis aurestola, Solagolen, c'est donc d'ores et déjà en salle et nous poursuivons notre tour d'horizon des sorties du moment avec la mère de tous les mensonges de la cinéaste marocaine Asmaï El-Moudir et qui l'an passé à Cannes avait été présentée en sélection officielle dans la section Un certain regard. Elle en était repartie d'ailleurs avec le prix de la meilleure réalisatrice. Un documentaire dans lequel, pour évoquer le quartier de Casablanca où vivent autrefois sa famille et les tragiques événements qui s'y déroulèrent en 1981, nous en dirons sans doute un mot. La cinéaste a fait fabriquer une maquette de la rue des figurines de ses proches pour mieux les inviter à rejouer ensemble leur histoire. Un film qui, en son cœur, recèle un personnage étonnant, en l'occurrence la grand-mère de la cinéaste, figure terrifiante à vrai dire, dont on comprend progressivement qu'en plus de faire régner la terreur et le silence sur sa famille, elle est dépositaire d'une mémoire, celle de ses proches, tout autant que du pays, sur laquelle elle veille jalousement. Dans cette même sélection officielle du Festival de Cannes figuraient l'an passé Little Girl Blue de Mona Achache et Les Filles d'Olpha de Kauter Benania, primé hier soir au César si vous avez suivi les épisodes les plus récents, deux documentaires qui eux aussi passaient par un dispositif pour faire remonter, pour ne pas dire excaver, une mémoire douloureuse, intime autant que collective, jusqu'à flirter avec la fiction, pourquoi pas, pour tresser également des récits de transmission d'une génération de femmes à l'autre. Il se passe donc quelque chose du côté du documentaire, mais qu'en est-il de celui-ci précisément? Vous avez découvert le film récemment, tous trois. Allez, à qui vais-je donner la parole? Ou qui saura la saisir?
Julie. Moi, je peux... Oui. j'ai aussi beaucoup aimé ce film. Et effectivement, j'avais pensé aux filles d'Olpha dans le parallèle entre le dispositif esthétique très inventif choisi, qui a aussi en parallèle un processus thérapeutique pour quelque part psychanalyser une famille et faire revenir les souvenirs un peu douloureux. Et donc là, formellement déjà c'est très beau, la maquette et les petites figurines qu'utilise toute la famille de la réalisatrice pour évoquer ses souvenirs douloureux et tue pendant une très longue partie de leur vie. Alors c'est pas du tout un film d'animation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stop motion, on voit, c'est de la prise de vue réelle, et on voit les personnages manipuler les figurines et du coup en profiter pour parler de ce passé. Et moi je trouve qu'il y a une belle adéquation entre le fond et la forme, parce que ça parle notamment d'images interdites. Il est question de ce personnage terrible de la grand-mère qui refuse les photos absolument, qui ne veut pas avoir de photographies, qui a à un moment même brûlé toutes les photographies de sa famille. Et donc la question de comment représenter ce pourquoi il n'y a pas d'archives, pas d'image, aussi bien sur le plan intime que sur le plan politique, parce que donc ce fameux épisode de 1981 qui est donc qui correspond aux émeutes de la faim, émeutes du pain, pardon, qui ont été terriblement réprimées et qui ont causé des centaines de morts. Il n'y a qu'une seule image, qu'une seule photographie qui reste de cet épisode. Et donc je trouvais la manière à la fois formelle, la manière de présenter de toute cette histoire était très habile et belle. Voilà, donc je recommande ce film. Il y a de vrais personnages aussi, enfin notamment cette grand-mère, mais le reste de la famille aussi.
C'est un personnage qu'on n'aurait même pas osé écrire en fiction.
C'est ça, c'est ça. Et le fait qu'elle soit présente est étonnant aussi.
Cette femme est hors norme.
Oui. Oui. Et puis elle a déjà rien qu'un visage incroyable, donc. Oui, c'est un film très fort. Et donc, c'est aussi intéressant parce qu'on va ensuite parler de Bye Bye Tibériade, qui a un certain nombre de parallèles entre les deux films. Mais il y a aussi une opposition dans le fait que, ici, il n'y a pas d'archives visuelles.
Exactement.
Et dans Bye Bye Tibériade, il y a une profusion.
Plutôt avec un foisonnement d'archives, voilà. Exactement. Oui, c'est très intéressant. Mais tout ça a été pensé en amont de l'émission. Ça s'appelle la programmation. Bon, il y avait un petit peu de chance aussi là-dedans. Francis.
Oui, évidemment, je ne peux que là aussi me joindre à ce qu'a dit Julie. Alors moi, j'ai envie, et c'était super que Julie commence à l'évoquer, de parler de cinéma d'animation. Parce que effectivement, alors ce n'est pas du cinéma d'animation puisqu'on ne recrée pas le mouvement. Mais en même temps, je considère que quelque part, c'est du cinéma d'animation dans ses limites. C'est-à-dire que effectivement, on ne recompose pas le mouvement. Ce très beau plateau que construit le père, donc qui reproduit cette rue dans ses moindres détails, et puis bah, toutes les marionnettes qui sont la famille, mais aussi les voisins, les habitants. Enfin, c'est absolument magnifique, et je crois que c'est une des raisons, en dehors de comment, en dehors du palmarès qu'avait déjà connu le film, c'est une des raisons qui m'a poussé à aller le voir. C'est d'un seul coup de découvrir ce dispositif, comment recréer, évidemment, on pense à Rétipane, l'image manquante et tout ça, et que d'un seul coup, on est face à un film d'animation qui n'en est pas un, mais on est face à un film qui finalement réinvente quelque part un peu l'animation et sort de cette espèce de truc de plus en plus lourdeau qui s'appelle le documentaire animé, où on va intercaler des séances d'interview et des reconstitutions. Ben là, pas du tout, parce que de toute façon, comme le disait Julie, les mains apparaissent, mais les personnages y bougent quand même. On voit les mains, effectivement, de la marionnettiste, mais ça n'empêche pas que les personnages qu'on a au bout, les marionnettes, elles sont vivantes, elles existent. Et finalement, toutes ces, et je mets des guillemets au mot, hein, toute cette pauvreté technique apparente, elle a un reflet qui est magnifique, c'est que d'un seul coup, elle s'intègre. Et par l'entremise du personnage du père, qui est un maçon et qui est donc un travailleur manuel et qui recrée toute cette rue en maquette, elle s'intéresse finalement à la pauvreté d'un quartier, de ses habitants, et donc effectivement mentionne d'un seul coup ces émeutes du pain, donc moi j'avoue je ne connaissais rien, en juin 1981, qui sont violemment réprimées par le régime, mais surtout qui... arrive parce que d'un seul coup, il y a une augmentation du prix de la farine qui est absolument inconsidérée, quoi. Et donc, je trouve qu'avec cette pauvreté technique, avec toujours ces guillemets, il y a une manière d'aborder la pauvreté aussi et de réfléchir à ce que c'est. Et puis, bah, évidemment, et t'as commencé, bien sûr, à en parler, Thomas, il y a cette figure incroyable qui est la figure de la grand-mère et qui est une figure absolument impressionnante. Pourquoi ? Parce que effectivement, elle refuse. Alors, en se cachant derrière l'interdit de la religion, qui ne veut pas de la représentation humaine, donc interdiction des images. Et en même temps, elle est là. Elle est au cœur du film et elle s'expose, à mon sens. Je trouve qu'elle s'expose 10 fois plus en étant dans un film, donc dans une image en mouvement, que dans une image fixe. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que jamais elle ne cherche à polir son image. Elle est insupportable, intraitable, monstrueuse, et elle le reste. Alors effectivement, après on comprend qu'elle a eu ses raisons, elle-même a subi, et c'est intéressant ce que dit le film aussi, elle subit des violences conjugales, sur la reproduction des sévices subis. Et le film finalement l'aborde de manière un petit peu détournée, mais le dit à un moment. Et donc voilà, comme tu le disais, on n'oserait pas l'inventer en fiction. On se dirait, oh, c'est quand même too much, quoi. C'est Glenn Close qui va l'interpréter, quoi. Mais je fais exprès de dire ça. Mais d'un seul coup, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que jamais elle ne cherche à être mieux que ce qu'elle est.
Oui, je vais juste ajouter une petite chose. Ça m'a fait penser aussi au très beau documentaire qui s'appelle Le Zoo, qui est paru l'année dernière de Claire Glorieux, dans ce côté.
Je n'ai pas
juste
vu, je m'en excuse, et je sais que ton camarade Gaël Rer et toi-même avez beaucoup médité pour ce film.
Parce qu'il y a aussi ce dispositif technique, cette adéquation entre le fond et la forme, et cet usage de maquettes, là en l'occurrence de papier découpé dans Zoom, mais il y a vraiment un parallèle entre les deux, et donc dans cette veine du documentaire qui se développe dans cette voie-là, ben, c'est aussi un très beau film à voir.
Margarita.
Quoi ajouter ? Vous en avez tellement bien parlé que je suis d'accord avec vous. Et je trouve que en fait il déborde d'idées de mise en scène, et que la réalisatrice a su mettre sa créativité au service de l'histoire, et de pas seulement son histoire personnelle de sa famille, mais aussi de l'histoire oubliée d'un pays, parce que justement, comme tu disais, Francis, c'est pas forcément une histoire qu'on connaît, dans le sens où moi j'avais pas entendu parler des émeutes du pain, et il y a quand même des faits assez terribles qui sont passés. Et je trouve qu'il y a une scène assez bouleversante dans laquelle, je n'ai pas compris si c'est l'oncle ou si c'est un voisin, c'est un voisin qui raconte le jour où elle a été arrêtée par la police. Et tout ça est raconté avec des poupées, comme si c'était une maison de poupées pour enfants. Et à la fois, ça arrive à être très... assez frappant. Et donc, je trouve que, voilà, il y a vraiment un équilibre entre la créativité de la mise en scène et aussi les thèmes, la dureté des termes qu'elle aborde. Et je trouve très intéressant aussi le fait d'utiliser les images manquantes, donc la photographie, comme lien entre l'histoire de cette famille qui n'a pas de mémoire photographique et les victimes des émeutes. Par exemple, il y a une fille qui l'intéresse particulièrement, qui s'appelle Fatima, qui est morte et pendant les émeutes de Pain. Et à sa mère, la seule chose que lui reste, c'est une photo. Et donc, j'ai beaucoup aimé le lien qu'elle crée entre elle, qui elle est encore en vie. Donc, elle dit « Moi, je suis le corps. » Et elle est l'image qui me manque. Dans le sens que elle est en vie, et alors que elle a pas de mémoire, elle a pas de photographie d'elle-même, alors que l'autre est morte, mais on garde juste une photo. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez touchant. Et aussi, comme tu disais, le personnage de la grand-mère, et il m'a rappelé un peu celui de la mère de la fille d'Olfa de Kotel Benania, même si c'est quand même beaucoup plus tyrannique dans ces cas-là.
Sur la question de la reconstruction. Sur la question,
voilà, de, ouais, exactement, de cet héritage, en fait, comme si on ne peut pas s'empêcher après de répéter les violences qu'on a subies sur nos enfants, sur nos niveaux. Et donc, mais je trouve que quand même, et là, comme vous dites, enfin, c'est un personnage assez horrible, mais à la fois, elle garde quand même une certaine tendresse dans la façon de la montrer, je trouve, parce qu'il y a un moment, par exemple, où elle dit, ben, ce n'est qu'une vieille dame, quand il y a un de, je pense que c'est le voisin qui s'en va de la salle parce qu'elle peut plus supporter, en fait, sa tyrannie. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage que, justement, pourrait être un personnage de fiction presque. Mm. Parfois on dirait qu'elle joue, alors que très probablement c'est juste elle qui est comme ça. Donc voilà.
Oui, Francis.
Oui, j'avais encore envie d'en rajouter un petit truc. Mais parce oui, que je pense que le film est...
Sans toi libre.
Est absolument passionnant. Et par rapport à tout ce qu'on dit, c'est vrai que du coup, on a beaucoup insisté sur ce dispositif qui est effectivement très, très inventif et très juste. Mais il ne faut pas négliger aussi qu'il y a une très, très belle part de mise en scène aussi dans le film. Et notamment, on commence à en parler via ce voisin qui protagoniste, qui est arrêté, et qu'il y a un moment où il rejoue ce qu'il a vécu, et que là, d'un seul coup, on n'est plus du tout dans le dispositif. Alors on verra qu'il y a un autre dispositif qui nous rapprocherait peut-être plus des filles d'Olfa, mais d'être complètement pris par le récit, et par le fait que le récit, alors là, à l'opposé, passe complètement par le corps du protagoniste, du voisin qui est incarcéré et qui a failli mourir, et que ce récit qui prend quand même de la place, qui a de l'importance dans le film, est un récit absolument fondamental aussi, et pourtant est un récit parallèle. C'est pas le récit de cette famille. Mais voilà, elle lui offre aussi de la place, elle prend le temps, et je trouve que c'est bien aussi parce que elle montre aussi qu'elle peut sortir de son dispositif et qu'elle a du coup vraiment des envies de mise en scène. Et je conclurai juste avec ça, c'est que c'est absolument passionnant. Là, on parle on évoque les filles d'Olfa, donc primées hier soir. On évoque évidemment ce film-ci. On va parler de Bye Bye Tiberia. Il y a comme ça des réalisatrices plus ou moins jeunes, mais dans le monde arabe, qui comme ça réfléchissent et sur les formes et aussi sur un passé à la fois intime et politique. Et je trouve que c'est assez impressionnant, et en même temps très... On a beaucoup parlé hier soir, effectivement, de l'avenir du cinéma et d'une reprise en main du cinéma, peut-être autrement. Et je trouve qu'elles y concourent aussi. Et à un autre endroit que la France, même si la France peut être présente par le fait de coproduire ces films.
D'être dans la coproduction, effectivement. La mère de tous les mensonges d'Esmé El-Moudir, ce sera donc en salle à compter du 28 février. Et je vous propose que nous fassions à présent une première pause musicale. Il faudrait que je me contente de lire ce qui est écrit sur mes feuilles plutôt que d'essayer d'improviser des formules un petit peu tarabiscotées, voilà, qui ne sont pas de mon niveau. On va donc faire une pause musicale et puis on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre ce tour d'horizon des sorties en salle.
Oh, I stopped dreaming long ago. I've had to live my little life.
changed from before can't explain.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez longtemps, je me suis couché de même heure. Thomas Faux au micro, en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des fiches du cinéma pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions Life is Coming Home de Amber Arcades. Retour aux sorties en salle avec Bye Bye Tiberia, le second long métrage de Lina Swalem, après Leur Algérie, sorti voici 3 ans et dans lequel déjà elle revenait sur l'histoire de sa famille. Citation. Bye Bye Tibériade est un dédale qui explore plusieurs générations de femmes, d'une matriarche résidant au bord du lac qui donne son nom au film, jusqu'à Lina Swalem, réalisatrice. Au centre de son regard se trouve sa mère, Iyam Abbas, actrice qui très jeune a quitté son pays pour vivre ses rêves de théâtre et de cinéma, ainsi qu'une émancipation impossible au sein de sa communauté. Une histoire familiale d'où émergent donc 3 générations, toutes orphelines, d'un territoire qui semble perdu pour toujours. C'est avec ces mots que Florent Boutet évoque le film dans les fiches du cinéma. Ce territoire, c'est la Palestine et la soccer, une fois encore, vous ne pouvez l'ignorer d'une actualité tragique. Comment regarder ce film à l'aune des événements en cours? Faudrait-il en faire abstraction, non sans adresser quoi au juste un mot d'amitié ou une pensée fraternelle, peut-être vaine ou déplacée, me dira-t-on, avec les victimes civiles de part et d'autre de ce conflit meurtrier? J'avoue que je ne sais plus quoi dire sur le sujet, à supposer du reste qu'un jour je l'ai su. Je vous laisse donc la parole, non sans préciser, chères auditrices, chers auditeurs, que le film est en salle. Francis, j'ai envie de te donner la parole sur ce film. Je crois que tu as quelque chose à en dire, quelque chose à nous faire entendre.
Oui, alors ça va être une entrée un peu transversale par rapport au film, mais alors j'explique pourquoi, parce qu'en fait J'ai vu le film et parallèlement, j'ai lu un premier roman de Marion Fayol, du même bois. Marion Fayol, que jusqu'à présent, on avait plus l'habitude de côtoyer comme autrice de bande dessinée, un petit peu hors norme, un petit peu décalée, mais très inventive. Et là, elle écrit un premier roman sur une ferme familiale et sur des histoires de génération, de transmission, justement. Et donc, on peut bien évidemment lire ce livre. Il existe aussi en livre audio. Et donc, j'avais envie de vous faire écouter un très court extrait. C'est un chapitre qui s'appelle La ressemblance et qui fait une page, une demi-page. Et il y avait deux options. Et Thomas a choisi la meilleure option, c'est-à-dire soit une lecture de Francis Gavel, moi aussi, je sais, m'auto-dénigrer, soit une lecture d'Alice de Langsin, comédienne et un petit peu réalisatrice aussi, qu'on va écouter tout de suite et après je reviens derrière vous.
La ressemblance. Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits toux. Et c'est vrai qu'ils sont des petits toux. Qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu des arrière-grands-parents, un peu de ceux qui sont morts il y a si longtemps. Des petits toux. Tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé. Tout. Des bouquets d'histoires, de silences, d'émotions, de gènes, de cellules. Des collages de lèvres, d'oreilles, de regards, de cils, de traits et d'odeurs. Des discordes, des secrets, des réconciliations. C'est pas toujours facile d'être un petit tout, d'avoir en soi autant d'histoires, autant de gens, de réussir à les faire taire pour inventer encore une petite chose à soi.
Voilà, alors pourquoi j'avais envie de faire entrer ce texte en résonance avec le film de Nila Sualem, c'est parce qu'il y a une scène à un moment qui m'a marqué et je trouvais que ce que dit Yamabas, donc, qui est sur la scène d'un théâtre à ce moment-là, sous le regard de sa fille, donc c'est aussi la comédienne sous le regard de la réalisatrice, et à un moment elle se tourne vers sa fille, et pour moi c'est la réplique qui concrétise tout le film, c'est elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu cherches, Lina ?» Et lisant le texte de Marion Fayol dans le même mouvement, bah, je me suis dit « Oui, ce que cherche Lina, et peut-être ce qu'on cherche évidemment tous, c'est... dans cette histoire familiale, c'est faire sa propre place à elle dans cette histoire familiale et dans cette histoire de femme de la famille. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment au cœur, au centre du film et qui le rend très très beau. Alors évidemment, on peut pas s'empêcher de faire des parallèles ou des résonances plutôt. C'est plus joli peut-être que des parallèles avec La mère de tous les mensonges. Parce que autant, par exemple, tout à l'heure, Margherita disait que quand même c'était un film de réconciliation, La mère de tous les mensonges. Et j'ai le sentiment que c'en est pas forcément un. Alors que ici, pour moi, c'est vraiment un film de réconciliation totale. Puisque, en dehors du fait d'être dans la quête, on va aussi les choses se réalise, Yamabas retrouve...
On retourne sur les lieux, on réunit la famille. Oui,
voilà, et donc d'un seul coup, il y a cette réconciliation qui se met en œuvre dans l'existence et à l'écran. Et parce qu'en même temps, c'est une réconciliation qui existe, je crois, sur des deuils qui sont impossibles. D'une part, t'en parlais tout à l'heure, effectivement, la Nakba et donc l'exil forcé des Palestiniens en 1948. Donc, le deuil impossible d'une terre. Et puis, l'autre deuil impossible qui est signalé, c'est le deuil impossible de la mer, puisque...
Dont Yamabas dit elle-même qu'elle ne sait pas ce que c'est de faire le deuil d'une mère, qu'elle ne le conçoit même pas, qu'elle ne se le représente même pas.
Voilà, et donc, c'est vrai que ce film nous met face à ces deux deuil-là. Et en même temps, je trouve qu'il y a encore une résonance entre les deux films, c'est par rapport à l'image. Il y a une image manquante, mais de manière réelle, quoi. Dans La mère de tous les mensonges, c'est la réalisatrice se crée une image puisqu'il n'y en a pas et elle se fait prendre en photo. Et une photo qui est une photo qui n'a rien à voir avec sa réalité, hein, puisqu'elle pose devant un décor hawaïen. Et là, Yamabas dit, mais la première photo qu'il y a de moi, c'est une photo que j'aime pas. Et donc, elle est aussi sur une photo, une image manquante, puisque à chaque fois, on est sur des images qui, finalement, ne correspondent peut-être pas au regard qu'on a sur soi-même ou à la réalité de ce qu'on est. Donc, voilà, en fait, quelques mots comme ça autour du film. Et je trouve que c'est deux films qu'il faudrait voir en même temps.
L'un à la suite de l'autre.
Pas sur deux écrans. Oui, ou alors c'est une installation effectivement muséale. Je voulais dire effectivement l'un après l'autre, tellement ils sont beaux et tellement ils se nourrissent l'un l'autre aussi.
Margarita, Julie.
Bah oui, je suis d'accord avec toi dans le sens que.
Si vous continuez à tout aimer comme ça, moi je sais pas ce qui, ce que ça va devenir cette émission. Non.
Pour les prochains, ça ira mieux.
Ouais, bah oui.
T'inquiète pas. Ben en fait, oui, je trouve que, ben, comme dans son film précédent d'ailleurs, Algérie, dans lequel il racontait l'exil de ses grands-parents paternels, donc qui étaient algériens. Et dans ces cas-là, il s'agit de l'histoire de sa mère, donc de la Palestine. Mais encore une fois, elle arrive à très bien mêler en fait, l'histoire intime de sa famille et aussi l'histoire collective d'un pays. Donc, et en fait, c'est la question de l'exil, justement, qui l'intéresse beaucoup. Et elle ne fait pas de comparaison, mais à la fois, c'est vrai que le film se focalise aussi beaucoup sur l'exil volontaire de sa mère, qui a décidé à 20 ans de partir pour aller en France, et aussi de son refus après de retourner dans sa terre natale. Et donc, c'est à travers sa naissance qu'elle a finalement un peu surmonté ce refus et qu'elle a voulu se relier avec sa famille. Donc, je trouve que les images d'archives, par exemple, qui ont été d'ailleurs tournées par Zinedine Soualem, donc le père de la réalisatrice, et sont assez touchantes parce que on y voit aussi le malaise que Yama Bass éprouve. Tout en étant au milieu des femmes de sa famille, et un peu comme si elle était étrangère en fait, et à tout ce qui se passe autour d'elle. Et donc je trouve que voilà, le montage qui associe ces images là aux images du présent, du retour en Palestine avec sa mère, et donc le fait de parler de ces quatre générations de femmes, en fait, de cet héritage qui est à la fois assez lourd, mais aussi qui fait partie d'elles, donc duquel elles ne peuvent pas se libérer finalement. Et peut-être je trouve un peu moins intéressantes les images d'archives qui sont prises de documentaires ou de films qui montrent l'exil des Palestiniens. Enfin, je trouve que peut-être il n'y avait pas vraiment besoin de ça, alors que les images que Lina tourne sont assez fortes, et aussi sa façon de filmer le lac de Tibériade où elle allait tout le temps quand elle était petite, et les liens qu'il y a entre cette terre elle-même et les femmes de sa famille, et je trouve cela assez touchant. Et même dans les parties où sa mère lit les poèmes qu'elle a écrits, donc je trouve qu'elle arrive toujours à trouver des idées pour que ce soit pas didactique ou même en fait je trouve voilà que dans chaque scène il y a quand même plein d'idées et à la fois c'est peut-être elle s'inspire aussi il y a une scène où la mère joue son rôle sur scène et qui peut rappeler justement encore une fois Kotel Benania. Je vais arrêter à citer ce dernier film, pour les autres je pense qu'il n'y aura pas l'occasion. Donc voilà, en fait, j'avais lu la critique de Florent Boutet sur le film, où il disait qu'il manquait une structure dans le film. Et au contraire, moi, je trouve qu'en vrai, la force du film, c'est justement sa structure, dans le sens qu'elle part de quelque chose de très intime pour arriver à parler de quelque chose d'universel. Et donc, je trouve que la façon dont elle le fait est très juste et assez touchante.
Julie.
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je vais pas avoir grand-chose à ajouter. Je trouve effectivement que c'est une belle manière d'évoquer l'histoire politique d'un pays, mais sans le faire frontalement, enfin de le faire en creux par des portraits intimes de toute une famille et de ces femmes qui ont chacune vécu un exil par contrainte ou par choix, dans le cas d'Yama Bass, mais toujours de façon, enfin c'était toujours un déchirement, quoi. Et enfin, je pense notamment aussi à la tante qui, elle, s'est retrouvée en Syrie, dans le camp de Yarmouk, et séparée de sa famille pendant des décennies, en fait. Et donc, oui, le fait de parler de chacune de ces femmes est une manière assez fine d'évoquer l'histoire de tout un pays sans le faire de manière didactique, comme tu disais, Margarita. Moi, la seule réserve que j'avais éventuellement sur le film, c'est que je trouve que la narration est parfois un petit peu plus empruntée, un peu moins naturelle, je trouve, dans la manière dont le texte est dit, mais c'est vraiment, c'est un ressenti subjectif et c'est assez mineur comme réserve, quoi.
Francis.
Oui, j'avais juste, parce que j'y repensais après coup en entendant tout le monde et tout. Ce qui est intéressant encore dans les résonances entre les deux films, La mère de tous les mensonges et celui-ci, Bye Bye Tiberiade, c'est que finalement on a deux portraits. Alors, d'un côté, celui d'Yam Abbas, une actrice, et puis celui dans l'autre film de la réalisatrice même du film. Donc de deux femmes, en fait, qui se construisent face à un refus familial du métier qu'elles choisissent. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant à nommer, à préciser, parce que à un moment, ça intervient dans le film, et à chaque fois, on voit qu'il y a un mur auquel chacune, elle se heurte. Et je trouve que c'est aussi des choses intéressantes sur la construction, effectivement, les choix qu'on arrive à faire et pour lesquels il faut se battre.
Il y a aussi la figure du père, en fait, qu'on voit jamais, mais qui est évoquée. Et donc, il y a cette peur, cette volonté de Yam Abbas d'avoir la validation de la part de son père de ses choix. Et c'est quelque chose qui est très fort pour elle. Et à la fois, elle montre aussi la façon dont les hommes, par exemple son grand-père, il a pas pu, il est devenu fou. Quand, pendant l'exil, il a dû abandonner sa terre, ses vaches, et alors que en vrai les femmes sont c'est eux en fait qui ont eu la force de continuer et de voilà, donc je trouve aussi que c'est intéressant le fait de que les hommes, même s'ils sont pas montrés, ils ont quand même un rôle assez important dans le film.
Bye Bye Tiberiade de Lina Swalem, c'est donc à découvrir en salle, sans transition. Mais alors là, sans transition aucune. 3 ans après France, le retour de Bruno Dumont, est-ce qu'il est possible d'envisager comme le concurrent le plus sérieux de l'univers étendu Marvel ? Soit les aventures successives et systématiquement cintrées, mettant en scène notamment l'inspecteur Van der Weyden et son acolyte Carpentier, interprété par Bernard Pruvot et Philippe Jure, qui, ici, cette fois, n'apparaissent, il faut le dire, que brièvement, témoin pour le moins circonspect d'une lutte sans merci entre la terre et le ciel, entre le bien et le mal. C'est également l'heure des retrouvailles après Malout puis Jeanne avec Fabrice Lucchini dans le rôle, accrochez-vous bien, de Belzébuth. Ajoutez à cela les paysages de la Côte d'Opale, chers depuis toujours au cinéaste, une cathédrale volante et des vaisseaux spatiaux, les nouvelles venues Lina Koudry, Anna-Maria Bartolomei et Camille Cotin, casting féminin ayant beaucoup évolué au fil du temps, puisque pour ces mêmes rôles avaient été à l'origine envisagés Lily Rose Depp, Virginie Efira et Adèle Haenel. C'est peut-être partie remise, exception faite d'Adèle Haenel, qui, vous le savez sans doute, a mis un terme ou en pause sa carrière d'actrice et a quitté le projet en reprochant à Dumont de véhiculer des clichés racistes et sexistes, des propos récemment contestés par Dumont, je le précise. Vous me direz éventuellement ce qu'il en est. Que serait le cinéma français sans Bruno ? Je vous pose la question. Je précise, Julie Margherita, que vous avez rattrapé le film en salle, ça a été mon cas aussi, dans la mesure où nous n'avions pas été prévenus des dates de projection de presse réservées, nous l'avons compris, au gratin de la critique française, gratin dont nous ne sommes pas ni aux fiches du cinéma, ni sur Radio Libertaire, mais ça va, je vis bien avec cette idée-là, je me parfume au mépris de classe. Qu'en est-il du film, donc ? Qui se et nous posent un certain nombre de questions sur la nature humaine et la nécessaire codépendance entre le bien et le mal, et d'autres plus prosaïques, à commencer par celle-ci que j'ai notée. Bah, c'est quoi ce bordel ? Elle est où la voiture ? Et, comme le dit le personnage de Lina Koudry, c'est sans doute ma préférée, bah, vous croyez que je vais les mettre où, mes papiers ? Dans mon cul, peut-être ? Voilà, je vous passe la parole sur ce. Qu'avez-vous pensé de ce nouveau film de Bruno Dumont ? Julie Margherita, vous avez vu le film ?
Oui.
Voilà.
Bah oui, voilà. Alors, c'est cette espèce de Star Wars tournée sur la côte opale. Mais en fait, je trouve que tout cela reste très abstrait. Donc, je trouve en fait que parfois les effets spéciaux même prennent un peu trop le dessus. Parce que, au contraire de Malout par exemple, où juste en filmant des visages, des paysages, il parvenait à créer un univers surréel et à la fois à parler aussi de la lutte des classes, donc de quelque chose qui concerne notre société. Alors que là, je ne vois pas du tout une critique ou je ne vois pas vraiment de lien avec notre société. Et à la fois, je trouve que les personnages sont aussi un peu stéréotypés. Et il y a des moments très drôles. Enfin, le personnage de Fabrice Lucchini, je le trouve vraiment très amusant. Ou même les deux inspecteurs. Il y a plein de scènes qui sont assez comiques. Et, mais je ne sais pas. En fait, je trouve qu'il manque un peu d'épaisseur, de poésie. Et même, en fait, pour les personnages féminins, je trouve qu'ils sont assez objectifiés, finalement. Et par exemple, la protagoniste, elle est une princesse, elle est un peu diaphane, un peu habillée en Lara Croft. Dans le sens, je le trouve assez déjà vu. Et j'avais entendu un entretien, je pense que c'était sur France Inter, et de Bruno Dumont et d'Anna Maria Bartolomei. Et la journaliste qui les interviewait disait que c'était assez remarquable la façon dont il avait réalisé les scènes de sexe ou de nu, parce que c'était des plans larges, donc il avait une certaine pudeur. Alors que au contraire, en fait, je pense que c'est une façon assez... c'est un peu comme s'il met le spectateur dans une position de voyeur, finalement. Et... par exemple, il y a aussi une scène de sexe où on voit, il y a un plan sur les seins de Anna Maria Bartolomei et on n'a pas le contre-champ. Donc, il n'y a jamais, en fait, le point de vue de la protagoniste. Il n'y a que le point de vue du protagoniste masculin ou du réalisateur, en tout cas. Donc, voilà, je n'ai pas du tout aimé sa façon de réaliser ces scènes. Et Bruno Dumont disait que pour lui, c'était un très beau personnage. Et alors que je trouve que voilà, c'est un personnage qu'on a déjà vu mille fois et qui n'est pas très intéressant.
Julie.
Alors, moi je dois dire que je suis aussi assez déçue par le film. Alors, donc ça peut aussi être mon problème, dans le sens où j'avais peut-être de trop grandes attentes, mais voilà.
Comment ne pas nourrir de grandes attentes avec Bruno Dumont?
Par rapport à Bruno Dumont, tu évoquais Malout, que j'aime beaucoup, oui. Notamment. D'abord, pour commencer, je trouve quand même que c'est visuellement assez magnifique, et j'aime assez le mélange du naturalisme de la Côte d'Opale et des personnages humains entre guillemets, et ce mélange des genres avec les images ultra léchées des vaisseaux cathédrales et vaisseaux châteaux assez fous, et le mélange des tons aussi qu'on a déjà pu voir dans les films précédents, qui est un peu une sorte de suite du virage extraterrestre pris par Coin Coin et les Inhumains, qui est la suite déjà de Petit Quinquin, donc la mini-série. Donc j'aimais assez l'idée de ce mélange assez déroutant et absurde des genres. Je suis d'accord avec Margherita sur le fait qu'il y a un côté très abstrait. Donc il y a cette idée de la lutte entre le bien et le mal, mais ça reste des concepts finalement pas très incarnés. Enfin, ils sont incarnés par des personnages, mais au fond, le bien et le mal ne se rattachent pas à des comportements particuliers. Donc on sait qu'ils ont fait allégeance au mal ou qu'ils ont fait allégeance au bien, mais ça n'entraîne pas vraiment de conséquences précise. Bon, après, j'ai lu dans le dossier de presse que c'était censé être un préquel de la vie de Jésus avec le personnage de Freddy. Donc, dans ce cas-là, j'imagine qu'on peut projeter que les comportements qui vont suivre, voilà. Mais
voilà.
Ça fait partie donc de l'univers étendu de.
Par l'entremise du Marga.
Du Marga, ça, voilà. Du petit enfant qui est un peu l'élu du mal.
Qui a été investi par le mal, qui est censé régner sur la terre. Voilà.
Mais donc oui, pour moi, donc, il y avait ce côté abstrait qui fait que je ne sais pas très bien ce que veut dire le film, ce que veut dire Bruno Dumont avec ce film. À part peut-être que les concepts de mal et de bien sont des catégories assez vaines qui n'ont pas vraiment de sens. Enfin, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Et aussi, tout me semble très anecdotique et sans réelle conséquence dans le fait qu'il y a un moment où le fameux Marga est enlevé, puis ensuite on va le récupérer. On voit pas vraiment comment se fait le fait qu'il se fasse récupérer. Tout se passe très vite sans qu'on sente vraiment les enjeux ou. Et puis il y a eu aussi ce fait que, bah, par exemple, le duo d'inspecteurs Van der Weyden et Carpentier, en fait, sont très peu présents. Ils sont aussi une présence très anecdotique, enfin, juste ponctuellement dans
deux, trois scènes. Ce qui m'a un peu déçu pour Margarita, notamment, puisque je savais qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire connaissance avec. C'est ça. Avec les personnages.
Et donc, en fait, globalement, l'impression générale que m'a laissé le film, c'est une sensation de manque de rythme. En fait, j'ai trouvé l'ensemble assez poussif. J'imaginais quelque chose de beaucoup plus délirant, en fait. Et j'ai l'impression que les choses délirantes, je les avais déjà vues dans la bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce. Et ensuite, le film m'a semblé un peu, oui, voilà, poussif. Je sentais que quelque chose ne prenait pas. Je me suis aussi demandé comment allait réagir le public qui venait voir le film en n'ayant aucune connaissance du cinéma de Bruno Dumont et qui va sans doute être très dérouté par la proposition.
J'en ai été témoin moi-même, oui. En rattrapant le film en salle hier, c'était assez stupéfiant.
Donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais bon, après je suis aussi d'accord avec toi Margarita sur le traitement des personnages féminins que je trouve que ça laisse assez à désirer. Voilà. C'est pas inintéressant, mais c'est vraiment pas le film que je conseillerais de Bruno Dumont pour le découvrir, quoi, pour découvrir son cinéma.
Ah, lequel ?
Lequel ? Après, moi, j'ai
tous
pas.
Tous ou presque.
J'ai pas tout vu. Comme je disais, j'aime beaucoup Malout, donc voilà. Mais effectivement, il m'en reste encore un certain nombre à découvrir.
On peut revenir beaucoup plus loin dans sa filmographie. Mmh. Effectivement, L'Humanité, par exemple, enfin, des films effectivement qui témoignent d'un virage assez spectaculaire et presque inédit dans l'histoire du cinéma. Peut-être que j'en rajoute un petit peu, mais enfin, c'est quand même, quoi qu'on en pense, une œuvre très singulière que crée depuis une vingtaine d'années Bruno Dumont. Et c'est donc d'ores et déjà en salle, L'Empire, et je vous propose que nous fassions une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans quelques instants.
I'm not your brother, I am not your son. I'm not your keeper, your debt collector. I am not a puppeteer pulling strings. Not a rag doll with which you can always play. I'm not a house key, a key that you can always change. Love.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Feu micro, en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du cinéma pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions Love, Lover, Friend de Caroline Rose. Nous en venons à présent au dernier film de cette table ronde. Walk Up, c'est donc le Hong Sang-soo de saison en attendant le prochain, A Traveler's Need, déjà tourné, qui était présenté cette semaine à la Berlinale. J'ai vérifié sur mon petit éphéméride de Facebook et il se trouve que l'an passé, à cette date précisément, tu étais à cette table, Julie, pour parler d'un film de Hong Sang-soo. Comme quoi, les habitudes. La vie et les amours de Byung-soo, un célèbre réalisateur au sein d'un immeuble de Gangnam, quartier huppé de Séoul. Voilà en quelques mots comment nous pourrions résumer l'argument de ce Walk Up. Dans les Fiches du cinéma, Arthur Bouy qualifie le film d'expérience sèche et radicale qui porte la méthode Hong Sang-soo à son point d'incandescence, tout en révélant ses limites. En quoi ce nouveau film, tourné en noir et blanc, un peu plus long que les précédents, je le précise, relit-il, rejoue-t-il, réagence-t-il les motifs usuels du cinéaste dont on sait que le travail est à faire de subtiles redites et variations? À l'affiche, les fidèles Kwon Hae-yo et Song Soon-mi pour leur 7e collaboration respective avec l'auteur, et Lee Ye-young, dont c'est la 3e apparition chez Hong Sang-soo, comme quoi, encore une fois, les habitudes. Et le film est déjà en salle. J'ai envie de me tourner vers Francis.
Oui, je prends. En plus, il y a un truc incroyable, parce que là, tu viens de citer le nouveau film donc, qui vient d'être montré à la Berlinale.
Avec Isabelle Huppert.
Voilà, 3e collaboration avec Isabelle Huppert, hein, donc là aussi, une habitude. Mais c'est qu'il y en a un autre, il y en aura un autre entre-temps, parce qu'au mois de juin, on en attend. Et moi, c'est celui-là que j'attends, en fait. Alors, celui du mois de juin, c'est un film un peu plus concept. Hein. C'est In Water. Donc Berlinale 2023, c'est un film d'1h01. Hein, ça, c'est les durées, je trouve, il est formidable sur ces durées-là. Et c'est l'histoire d'un apprenti cinéaste. Donc là, c'est un cinéaste jeune cette fois-ci, qui est en villégiature sur l'île de Jeju et qui hésite sur le film à faire. Et j'attends ce film avec une impatience monstrueuse parce que le choix de Hong Sang-soo est radical. C'est-à-dire que à cette panne d'inspiration, à ce flou de l'inspiration de ce jeune cinéaste, répond le flou de l'image du film. Et jamais pendant 1h01, Hong Sang-soo ne fera le point sur son image. Donc on va aller voir un film qui va être flou pendant 1h01. Et franchement, moi, j'attends ça avec impatience. Donc, du coup, c'est vrai que pour ce film-là, Walk Up, j'étais un petit peu sur le Hong Sang-soo d'après, déjà. Donc, je dois reconnaître que c'est... J'adore Hong Sang-soo, j'adore ses variations infimes qu'on retrouve de film en film. Mais là, je me suis laissé porter parce que j'étais de toute façon content d'être là, content d'être dans un univers, je me dis guillemets au mot, de redite. Mais... sans en attendre beaucoup de choses, je dois l'avouer, je sais que c'est mal. Et puis, évidemment, il y a un twist final, qu'évidemment je ne vais pas révéler, mais que je trouve peut-être un peu convenu, même s'il a l'intérêt de peut-être nous permettre de revisiter tout le film. Ça, bon, on ne peut pas le retirer. Par contre, il y a au cœur du film... Moi, j'aime bien tirer une réplique d'un film, à chaque fois. Et donc, il y a une femme d'une quarantaine d'années qui, rencontrant ce réalisateur, qui aime ce qu'on parle de lui, c'est toujours très mignon, lui dit quand même, cette réplique est fantastique, et évidemment comment elle va bien avec le cinéma d'Hong Sang-soo, que son cinéma, en fait, qu'elle regarde, donc on l'apprend, elle ne va pas le voir au cinéma, elle le regarde chez elle. Voilà. Donc, sur petit écran, eh ben, elle trouve que ses films passent très bien avec l'alcool. Et moi, je trouve que c'est la plus belle réplique, et c'est le plus beau compliment aussi qu'on peut peut-être faire. Un des plus beaux au cinéma d'Hong Sang-soo, c'est que ses films passent très bien avec l'alcool.
Marguerite, Julie.
Oui. Alors j'ai pas testé la chose, mais oui, j'imagine que ça doit être. Oui, ça doit bien passer. Alors je suis moins enthousiasmée par ce film-là que les précédents que j'ai pu voir, effectivement, de Hong Sang-soo. Après, je suis loin d'avoir vu toute sa filmographie parce que elle est pléthorique. Comme tu disais, il est un peu plus long que les précédents, et je trouve que là, on sent effectivement quelques longueurs. Mais après, on retrouve avec quand même beaucoup de plaisir ces longues conversations, enfin ces plans fixes de longues conversations autour de verres d'alcool, justement. Et ce ton un peu, ironique et même parfois un peu grinçant. Et c'est la façon d'étirer les moments de gêne entre certains personnages que je trouve assez réussi. Je trouve assez amusant d'ailleurs les contradictions dans les discours que peut tenir le personnage du réalisateur d'une époque à l'autre, enfin d'une scène à l'autre, enfin une scène où il est décidé d'être végétarien et puis une scène où il mange un gros morceau de viande et puis enfin et c'est tout à fait. Mais alors ce que je trouvais intéressant dans ce film là, c'était l'usage de la temporalité un peu floue justement, comme tu parlais de flou. Il y a des ellipses assez radicales et un peu déroutantes dans ce film où on ne sait pas forcément quand se situe la scène qui vient après celle qui précède, et ce qui donne un flottement un peu onirique à ce cinéma paradoxalement très aussi naturaliste et très réaliste dans les conversations quotidiennes qu'il peut montrer. Et oui, effectivement, donc le twist final dont tu parlais, que je ne vais pas révéler, mais qui donne rétrospectivement aussi un côté un peu plus poétique et plus flou, enfin plus étonnant à l'ensemble. Alors après, moi j'avais je trouvais le personnage du réalisateur un peu agaçant dans son immaturité et sa tendance à se faire dorloter par les personnages féminins pendant tout le film.
Qui l'avait qualifié? On en a parlé tout à l'heure.
J'ai dit que c'était un gros bébé.
Que c'était un gros bébé,
oui, voilà. C'est moi qui ai dit ça.
Souvent dans les films de Hong Sang-soo, les réalisateurs sont insupportables.
Oui, et puis c'est pas une critique à Hong Sang-soo, c'est comme ça qu'est le personnage et c'est tout à fait voulu, je pense. Mais du coup, ça peut créer une petite irritation pendant le film. Et aussi, du coup, par rapport au personnage féminin qui lui court après infatigablement, alors que vraiment, on peut se demander pourquoi. Oui, après, c'est quand même un film qui a des qualités. Encore une fois, c'est pas forcément celui que je recommanderais en priorité de Hong Sang-soo, mais c'était une expérience intéressante malgré tout.
Margarita.
Bah oui, enfin, je vous avoue que je voulais écrire des notes après avoir vu le film, mais après je me suis assoupie en regardant par la fenêtre. Et après, j'ai regardé ma page.
Mais voilà. Ce que tu me dis là, moi, ça, j'ai l'impression que ça sort d'un film de Hong Sang-soo.
Exactement. Après, je me suis dit en regardant la page blanche que c'était quand même, ça correspondait bien au film.
Parfaitement.
Et donc, quoi ajouter? Non, en vrai. Non, c'est. En fait, j'ai aimé le fait qu'on a l'impression de plonger dans un rêve où il n'y a pas de temporalité, du coup. Et en fait, c'est un peu comme si toutes les personnes de la vie du protagoniste se retrouvent dans le même lieu. Et elles partent, elles reviennent. Donc, j'ai pas mal aimé ces côtés-là. Mais après, j'ai pas retrouvé le même plaisir que je pouvais en regardant les autres films d'Hong Sang-soo. Parce que, en fait, je pourrais regarder les conversations de ces personnages pendant des heures sans m'ennuyer, alors que là, parfois, j'éprouvais quand même un peu d'ennui. Donc, c'est peut-être, oui, enfin, je pense que c'est surtout pour le fait que je trouve que le personnage principal n'est pas si intéressant. Et que quand tout tourne autour de lui, finalement, ça devient un peu. Certains moments finissent par devenir un peu ennuyant. Mais sinon, l'atmosphère qu'il crée est assez fascinante. Et il y a certaines scènes qui sont quand même assez touchantes. Par exemple, quand il est dans le lit et qu'il rêve, on ne comprend pas s'il rêve le retour de sa compagne ou si quelque chose qui s'est passé après, et du coup, il entend la voix. Et donc, voilà, on retrouve quand même quelques touches géniales de Hong Sang-soo.
Merci à vous, Woke Up de Hong Sang-soo. C'est donc d'ores et déjà en salle. Je vous propose à présent que nous fassions une dernière pause musicale avant d'en venir à la toute dernière partie de l'émission. Et on se retrouve donc dans quelques instants.
Tu n'as toujours pas bien compris comment tu es arrivé jusqu'ici. Et tu ne saisis toujours pas comment tu es devenu comme ça. Voyez ça plus joli et plus marrant aussi parfois et surtout bien mieux écrit et bien plus clair que ça. Tu veux la pierre, tu veux la roche, tu veux quelque chose à quoi l'on s'accroche. créer une famille et la garder sous un toit. Tu veux le venin, tu veux le poison, tu veux pouvoir être aimé à jamais.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonheur, Thomas Faux au micro, en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions le message de Miossec, à qui je souhaite un bon et prompt rétablissement. Nous en venons à présent à mon moment préféré de l'émission, celui où enfin, si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez cesser de parler de cinéma, puisque rien ne vous y oblige. Ce moment, c'est celui des coups de cœur de la rédaction, je me tourne donc vers vous. Y a-t-il un enthousiasme que vous souhaiteriez partager avec nos auditrices et auditeurs, un livre, une musique, une exposition, un remède à la tristesse, une playlist de mariage, un pronostic pour les Césars 2025, et pourquoi pas un film, si vous aimez tant que ça. À présent, c'est à vous. Allez, ça va tomber sur Margarita.
Oula. Je m'entendais pas. Oui, alors, mon coup de cœur, c'est une bande dessinée qui s'appelle Shiki, 4 saisons au Japon, de Rosalie Strusser. Je ne sais pas si je prononce bien.
Je vois que Francis abonde dans ton sens.
Totalement.
Ah ok, d'accord, très bien. Ben, en fait, l'autrice du coup raconte les mois qu'elle a passé au Japon et la façon dont son regard sur un pays d'abord idéalisé évolue au fil des saisons. Donc les récits sont vraiment très captivants et en plus elle raconte aussi des expériences assez douloureuses qu'elle a vécues là-bas en tant que femme dans une société qui est quand même très patriarcale. Et donc, et quand même son attirance envers ce pays qu'elle continue à avoir et pour cette culture. Donc, je trouve que c'est une façon différente de parler du Japon et les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc, je l'ai lu vraiment 2 heures et je le conseille vivement.
Julie.
Alors, pour moi, ce sera un spectacle. Et pour rester dans la continuité wokiste de cette émission amorcée avec 20 000 espèces d'abeilles et sur la question de la transidentité. Donc il s'agit d'un seul en scène qui s'appelle « Pour un temps soit peu », temps T-E-M-P-S, de Lorraine Marx, qui est, donc, se décrit comme une autrice trans, une autrice, donc une femme trans non-binaire. Et donc il s'agit de ce qu'elle qualifie d'un stand-up triste, qui raconte un parcours de transition qui est fondé sur son expérience, avec tous les détails absurdes, humiliants et déchirants qu'elle a pu, que ça peut impliquer. Donc c'est elle qui interprète sur scène son propre texte. Elle a une vraie présence assez forte et assez marquante. Pas forcément toujours sympathique, mais ça fait partie du personnage. Et c'est assez puissant donc, qu'elle incarne sa propre histoire comme ça. Donc, c'est mis en scène par Fanny Sintès. Donc, l'autrice et interprète s'appelle Lorraine Marx. Malheureusement, je n'ai pas vu de nouvelles dates en France. Alors, ça doit être présenté au Théâtre National Wallonie-Bruxelles du 26 mars au 6 avril. J'espère qu'il y a une tournée qui va se poursuivre par la suite et que ça va encore être joué en France. Mais, par ailleurs, le texte est paru aux éditions théâtrales. Donc il est possible de lire aussi le texte de ce spectacle, qui est donc à la fois dur à entendre, mais qui est une parole nécessaire, je pense, et assez forte. Voilà.
Merci à vous, Francis. Je vais te rendre la parole parce que je sais que tu as un coup de cœur à partager aussi avec nos auditrices, nos auditeurs. Auditrices et auditeurs que j'en profite pour remercier de leur attention, de leur présence, de leur fidélité. On se retrouve donc le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas de haïr le gouvernement et tout ce qui se trouve à sa droite. Je sais que ça fait du monde, mais pour cela, je crois pouvoir compter sur vous. Julie, Margarita, merci à vous et à bientôt. Francis, je te rends donc l'antenne. Tu sauras mieux que moi ce qu'il convient d'en faire.
Je ne sais pas si je le saurais mieux que toi. En tout cas, une première chose est sûre, c'est de vous remercier tous les trois pour votre présence ce matin et pour vos évocations autour des cinq films dont il a été question. Alors oui, aujourd'hui, je m'étais dit, là, je vais aussi avoir un coup de cœur. Depuis 2024, c'est l'année des coups de cœur, en fait. Avant, j'en avais pas, et maintenant, j'en ai. Non, avant, je les exprimais pas, j'étais comme ça. Alors, bon, il pourrait y en avoir plein. Hein. On pourrait dire, il y a des expos hein, à voir. Alors, il y a l'expo des photographies de Tina Modotti qui vient de démarrer au Musée du Jeu de Paume. Hein. Mais on peut aussi, dans un registre très différent, à chaque fois, c'est très différent, aller voir tout le travail d'illustratrice, d'autrice de bande dessinée, de Posy Simmons à la BPI, donc Centre Pompidou. Hein, c'est le contraire de Modotti. On pourrait dire que c'est d'une bourgeoisie qui s'exprime, mais c'est tellement drôle. Et c'est quelqu'un, finalement, qui est à l'opposé de tout ce qu'on pourrait dire d'une bande dessinée trash. Hein, au contraire, c'est très beau, très propre. Mais on peut être subversif en étant très beau, très propre. Et du coup, ça nous emmène aussi à une exposition à la galerie Daniel Maguin, qui est rue du Louvre, qui est une exposition. Alors, la galerie Daniel Maguin est spécialisée dans la bande dessinée, mais là, elle s'ouvre à une autrice illustratrice qui est Gabrielle Vincent, la créatrice d'Ernest et Célestine. Donc du coup, ça permet de faire un petit billet avec le cinéma.
Je vois que cette fois, c'est Julie qui opine. Qui opine du chef.
Donc,
vous avez des références partagées sur ce plateau.
Voilà, exactement. Donc Ernest et Célestine, on se rappellera qu'après, c'est devenu un très très beau film, hein, qui était le Ernest et Célestine de Benjamin Reiner et Patard et Aubier. Et puis après, on a eu une suite qui est un très mauvais film, hein, qui était Ernest et Célestine voyage en Charabie. Mais pourquoi? C'était simple, parce que Ernest et Célestine, le premier, est adapté donc des albums de Gabriel Vincent, et puis le deuxième, Ernest et Célestine, en fait, est adapté de la série qui a prolongé le premier film. Voilà, si vous avez suivi, hein, donc vous saurez qu'il faut pas le voir. Voilà, et puis comme j'ai parlé de Marion Fayolle, évidemment, je vous conseille de lire Du même bois, qui est un très beau premier roman, et puis j'anticipe, parce que c'est au mois de mars, mais il y aura une rencontre avec Marion Fayolle le 28 mars prochain, donc on a le temps, et là, c'est pour Julie, hein. C'est à 19h30, et c'est à la librairie Mélène Page à Vincennes.
Ah oui.
Donc, tu ne peux pas ne pas y être. Et mais en fait, c'était pas mes coups de cœur. Hein, voilà, parce qu'en fait, mon coup de cœur, j'ai choisi, on va revenir sur la fin de l'émission, on va reparler musique, chansons. Et en fait, c'est pour un site internet qui vient de se créer. Et le site s'appelle Chant de Lutte. Alors, c'est www.chant-de-lutte.com, chant comme une chanson au pluriel. Et c'est un site, je vous livre un extrait de sa présentation. Ça rebondira avec ce que tu as dit sur Emmanuel Macron. Quand les gueux, les sans-nom, les crèves-misères se mettent à reconnaître leur ennemi social, bourgeois, riches, profiteurs, curés, patrons, militaires, politiciens, qui vivent de leur sueur, alors le vieux monde vacille sur ses bases et notre chant de libération clame en mille langues, en mille lieux, que les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne, qu'ils ont un monde à gagner. Mais les nantis et les exploiteurs se défendent. Ils ont intérêt, de façon antagonique à la nôtre, à entretenir notre amnésie sociale, à occulter nos incessantes résistances, à réécrire sans cesse l'histoire réelle de notre vie. Ce qu'ils appellent culture est une puissante arme de distraction massive. Et sur ce site, donc, qui est assez passionnant, alors qui s'intéresse à la chanson, mais uniquement sur la sphère francophone, plus par souci de connaissance de cette sphère, on va évidemment retrouver aussi bien Aristide Bruant que le Chant des Patriotes, Lénine Scudero que la Complainte de Mandrin. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est que le créateur du site plonge dans ce qu'il appelle la variétoche pour essayer de retrouver, donc, dans ce qu'il considère comme une arme de distraction massive, les infimes traces de lutte de classe, je reprends ces mots, et donc il s'intéresse à des chansons comme « Merci patron » des Charlots ou « Le travail c'est la santé » d'Henri Salvador, en passant bien évidemment par un hymne que tout le monde connaît, « Le lundi au soleil » de Clo-Clo. Voilà, donc je vous conseille ce site « Chant de lutte », qui est vraiment foisonnant. Alors on pourra évidemment se faire un clin d'œil, se dire « Chant de lutte » et toutes les vidéos qu'on voit viennent de YouTube. Bon, aujourd'hui, on est obligé de composer avec les moyens mis à notre disposition par le grand capital. Voilà, on va se quitter comme promis avec un deuxième extrait de notre album du mois. Donc je rappelle qu'il est le très bel album, le très resvanien, à mon sens, album d'Antoine Salaire. Et ce n'est pas déprécier le travail d'Antoine Salaire que de le comparer à Serge Resvani. Donc le hasard, et je vous avais dit, on va écouter un dernier morceau qui est une balade dominicale, parents-enfants, au Jardin des Tuileries, qui s'appelle 8 milliards et 1, et ce sera notre générique de fin d'émission. Vous êtes donc sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. C'était longtemps Je me suis couché de bonheur. On se retrouvera d'ailleurs le samedi 23 mars. C'est une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, réalisé par Erwin Charton, qu'on remercie une nouvelle fois de son soutien effectif et total. On vous souhaite une très très bonne journée à l'antenne de notre station et on se quitte donc en écoutant un nouvel extrait de ce très bel album d'Antoine Salaire qui s'intitule Le Hasard et qui est disponible digital et support physique depuis le 19 janvier dernier. Au revoir.
Nous marchons fin de semaine, ta petite main dans la mienne, tu m'assailles de pourquoi la nuit seule t'arrêtera. Nous marchons dimanche gris dans les rues d'un vieux Paris qui ne m'aura pas vu naître, que tu quitteras peut-être en arrière-plan. Le monde violent, les océans, 8 milliards de gens, manège, tuileries, tes yeux qui brillent. Quel mot choisir pour l'avenir? Que dit? Il y a Verlaine et Debussy. Là, c'est la scène. Là, c'est la vie. Les mots de mépris, mais là la scène et là la vie. Tes grands yeux écarquillés et ton sourire en chantier, ce caillou est passionnant, ne connais-tu que le présent? Une si pleine candeur comme un rempart à la peur. Toi tu vois le beau partout, ah tiens, un autre caillou en aparté, le monde blessé, les humiliés et la facilité, manège flonflon, toutes ces questions, quel mot choisir pour l'avenir? Il y a Coltrane, Eric Satie. Là, c'est la scène. Là, c'est la vie. Woody Allen, Chaplin, Charlie. Les mots d'Hélène, dit par Romy. Martin Eden, The Great Gatsby. De rentrer à mon tour de te porter. Verlaine et Debussy. Et là, la scène. Et là, la vie.
Bonjour les chroniques rebelles, aujourd'hui avec un livre « Racisme d'État, État raciste, une brève histoire » d'Olivier Lecourt-Grandmaison, publié aux éditions Amsterdam. « Les derniers hommes », un film de David Eulhoffen, en salle depuis le 21 février. « Il n'y a pas d'ombre dans le désert », un film de Yossi Aviram. « La mère de tous les mensonges », un film d'Asmae El-Moudir. Débâcle, un film de Verle Betten, c'est un entretien avec la réalisatrice. Eureka, un film de Lisandro Alonso. Mais avant ce programme, nous parlerons de deux festivals importants, Regard Satellite, du 27 février au 11 mars, et Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, du 28 février au 11 mars. Regard Satellite, du 27 février au 11 mars. Regard Satellite est un festival qui favorise une approche multiculturelle par le biais du cinéma, des regards frondeurs et politiques sur la société. Et comme l'écrit Laurent Kalonek, après 23 éditions thématiques, les journées cinématographiques dionysiennes ouvrent un nouveau chapitre et prennent le nom de Regard Satellite. Cette nouvelle appellation correspond davantage à son identité, à sa ligne artistique et à son engagement. Regard Satellite va s'attacher à proposer d'autres pistes dans la création cinématographique, à la rencontre des cinémas du monde entier qui font la part belle au regard indépendant et satellite du cinéma dominant. Ces 20 dernières années, de nouveaux courants esthétiques et de nouvelles façons d'interroger la société se sont incarnés. Dans la production cinématographique, entre autres, avec des films originaux, rares et fascinants, proposés au public, accompagnés par des cinéastes comme Bertrand Mandicot, Youssef Chebbi, Adila Bendimerad et Damien Ounouri, et pour souligner encore les liens existants entre les chroniques rebelles, il y a également le panorama du cinéma colombien, autre festival étonnant, côté découverte. Regard Satellite se déroule du 27 février au 11 mars, qui a choisi pour sa soirée d'ouverture le 27 février à 20h, le nouveau film de Lisandro Alonso, Eureka. En consultant la programmation des Regards Satellites et la liste des cinéastes invités, cela nous a donné l'idée de chercher dans les archives des chroniques pour y trouver quelques entretiens et d'en choisir des extraits. À commencer par la rencontre avec Youssef Chebbi, réalisateur de Ashkal, et la comédienne Fatma Oussaifi. Ashkal de Youssef Chebbi a remporté l'Antigone d'or au 44e festival CINMED en 2022. Le film prend pour cadre un projet immobilier initié pendant le régime Ben Ali sur le site de Carthage, la ville antique détruite par le feu. Tout un quartier fantomatique dont la construction a été abandonnée au moment de la chute du régime. Dans un des bâtiments du quartier, pompeusement baptisé les Jardins de Carthage, deux flics, Fatma et Batal, découvrent le corps calciné de l'un des gardiens du chantier.